le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Et il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écoutait alors à pleine bouche. J'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois et puis je suis remontée encore un peu plus loin, à l'origine du souffle, au tout début des mots et du langage. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. On ne peut pas vivre sans le souffle, ni penser, ni agir. Le souffle est la manifestation la plus simple de la vie, de l'énergie qui nous habite. Le souffle nous meut, nous émeut. Il en est de même pour la parole prononcée. Écoutez directement. Il y a très longtemps, je ne sais pas si tu le savais, mais les chiens parlaient. Non seulement les chiens parlaient, mais pour cela, ils avaient 2 bouches. La bouche de devant et la bouche de derrière. Et les chiens aimaient tellement parler que régulièrement, ils se réunissaient dans une petite grotte secrète de seuls connus. Et là, parfois, ils se faisaient des réunions fabuleuses, de haute volée. Ils partageaient des mots incroyables et des fils de pensée tellement joliment tissés. Et c'était bon. Et puis, de temps en temps, c'était les bouches de derrière qui s'y mettaient. Et là, ça devenait épouvantablement pas possible de réfléchir et de parler et de penser. Et un jour, le plus intelligent des chiens a dit « c'est plus possible hein. ». Quand nos bouches de derrière s'y mettent, on n'arrive pas à parler et nos réunions ne ressemblent plus à rien. Oui, ont dit les autres chiens. Bon, alors voilà ce que je propose. À la prochaine réunion, on n'a qu'à se débarrasser de nos bouches de derrière. Juste, on les dépose à l'entrée et puis on les récupère à la sortie. Est-ce que ça vous irait ?
Oui, d'accord, ont dit les autres chiens.
Et à la réunion suivante, ils ont fait comme ils ont dit. Chaque chien a déposé sa petite bouche de derrière à l'entrée. Ils sont entrés dans la grotte, se sont réunis et là, c'était grandiose. Ils ont trouvé des idées neuves. Ils ont trouvé des mots tellement beaux pour raconter ce qui les traversait. Et les pensées tournoyaient dans la grotte et dehors, un petit vent malin s'est promené. Et il a vu au sol toutes les petites bouches de derrière qui étaient posées. Ça l'a amusé, le vent. Alors, il a soufflé dessus, il a tout dispersé et il est reparti dans un petit ricanement de vent. À l'intérieur de la grotte, la réunion terminée, les chiens sont ressortis. Et là, ils ont vu toutes les bouches de derrière mélangées. Ils ont commencé à chercher, mais leur bouche de derrière, ils la connaissaient pas bien. Faut dire qu'ils n'avaient pas tellement l'occasion de la repérer. Et ils ont cherché encore à démêler. Bon, ça suffit, a dit le plus intelligent du groupe. Une bouche de derrière, c'est jamais qu'une bouche de derrière. On va pas y passer non plus toute notre vie. Voilà ce qu'on va faire. Chacun va prendre la première qu'il trouve, se la mettre, et puis... Et puis terminé.
D'accord, ont dit les autres chiens.
Et chacun a récupéré la première bouche qui se présentait. Chacun a remis à son derrière cette bouche de derrière, prise au hasard. Seulement, ils se sentaient pas bien avec cette nouveauté. Ils avaient pas tellement envie d'en parler, ils avaient honte pour tout dire. Et c'est depuis ce jour-là que les chiens ne parlent plus. C'est aussi pour cela qu'aujourd'hui encore... À chaque fois que 2 chiens se rencontrent, la première chose qu'ils font, c'est d'aller se renifler le derrière, juste pour vérifier, et puis aussi par pure nostalgie d'une bouche, à jamais égarée. un cri dans la forêt. Certains préhistoriens pensent que le langage sonore a prévalu sur le langage gestuel. On peut ainsi admettre que la parole serait d'abord un cri. Ce cri, un appel. Un appel à l'aide, une question. Un moyen d'être situé, remarqué, considéré, appréhendé, secouru. Que ce cri est émis dans toute situation d'obscurité, d'ignorance ou de malheur, et que ce cri en engendre un en réponse, qui signifie « tu n'es pas seul ». La parole, semble-t-il, fut aussi sans doute à ses débuts et après le geste, un moyen de compter, de dénombrer, d'énumérer, et par là de décrire sa propriété d'acquérir, de garder. Les premiers comptes d'énumération qu'on destine aujourd'hui aux enfants en témoignent. On pourrait ainsi avancer alors que la possibilité de se représenter des objets, de les décrire, les énumérer, est un acte de propriété. Un contrat, un inventaire, un commerce de mots, et que ces mots deviennent une monnaie d'échange. Ainsi peut-on comprendre l'étymologie du mot « compte ». C'est un échange matériel. Je mets dans ton esprit ce qui se trouve dans le mien. C'est aussi un moyen de mesurer, de jalonner l'espace, mais aussi le temps, un moyen de se situer dans sa propre construction, son propre voyage. Le commerce des mots et des choses sont très étroitement liés. Et ceux qui l'ont oublié risquent de se retrouver sur la paille.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers. Et des mots ch'tus pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés. Des mots en l'air pour les oiseaux. Des mots de passe pour les méfiants. Et des mots clés pour les prisonniers. Des mots pour rire
pour les enfants.
Des mots tabous pour le taboulé.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot.
Des mots croisés pour les retraités. Et des petits mots
pour les béguins.
Des mots d'ordre
pour les ordonnés.
Des mots fléchés
pour les indiens. Des momies pour les pyramides. Des demi-mots pour les demi-portions. Des mots courants pour les rapides. Et le mot de la fin pour la chanson.
La parole nous donne le pouvoir. Elle permet de s'approcher du vrai, du juste, du beau. Elle permet de s'inscrire dans le temps et peut-être aussi de lui échapper. Elle permet de raconter. Un autre des pouvoirs de la parole est de décrire le non-visible ou bien encore le disparu, l'absent, et ainsi de le garder. Elle est pour l'homme un aliment puisqu'elle le constitue, le reconstitue, participe à son développement. Elle est tout en même temps son vêtement, car bien qu'absorbée et contenue par lui, elle le contient à son tour. Elle le définit, l'habille. Elle est aussi son armure, mais en même temps l'arme qui peut le faire disparaître. Comment une société peut-elle se désintéresser de cet outil ? La parole est nécessaire à l'existence d'une société et tout autant nécessaire à l'existence de chaque individu. C'est un bien commun. Et puisque c'est un bien commun, elle doit être accessible à tous. Comment se fait-il qu'elle ne le soit pas, ou qu'elle ne le soit que sous des formes dégradées ? Et comment se fait-il que les formes transmissibles, conçues pour tous et héritées des temps précédents, tels que les contes, les proverbes ou bien d'autres objets verbaux, soient négligées, sinon volontairement écartées d'une partie des membres de la collectivité ?
Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.
Ce monde est nul. Je déteste cette vie et les gens sont tellement méchants. Pour cet homme-là, la vie n'avait pas très bien commencé. Déjà, dans le ventre de sa mère, il avait fait plein de nœuds. Il était sorti tout en berlificoté. Il était né un 29 février. C'est quand même pas de chance. En plus, cette année-là, ça tombait un vendredi 13, ce qui là, quand même, est vraiment pas de chance. Et l'homme avait poussé, traversé l'enfance puis l'adolescence avec au-dessus de sa tête un petit nuage noir qui lui pleuvait rien que sur lui en permanence. Et dans la bouche, cette litanie, ce monde est nul. Je déteste cette vie, les gens sont vraiment méchants. Bon, les gens autour, ils voyaient bien le petit nuage gris, alors ça les attirait pas trop. Et ils continuaient seuls, ce monde est nul. Je déteste cette vie et les gens sont tellement méchants. Alors pour tromper sa solitude, l'homme s'était mis à acheter tout ce qu'il pouvait posséder. Il en remplissait sa maison, puis ça le calmait un peu. Ça calait sa soif de combler le vide, mais pas très longtemps, ça lui reprenait. Régulièrement, ce monde est nul. Je déteste cette vie, les gens sont vraiment méchants. Et puis il y avait eu cette femme. Bon, elle avait tout de suite vu le petit nuage au-dessus de la tête de l'homme, mais cette femme-là s'était dit... Il a manqué d'amour, cet homme. Je suis sûre qu'en lui donnant un peu d'amour, je peux arriver à quelque chose avec lui. Il y a des femmes comme ça qui pensent qu'avec un peu d'amour, on peut sauver un homme. Elle s'était approchée de lui, elle l'avait aimé et ça avait marché. Le cœur de l'homme commençait à s'adoucir, sur son visage naissait doucement un sourire. Mais ça n'a pas duré. Ce monde est nul. Je déteste cette vie et les gens sont vraiment méchants. Et pourquoi ma femme est là plantée à me sourire tout le temps ? Ce monde est nul. Je déteste cette vie, les gens vraiment sont méchants. La femme s'est dit, j'y arriverai pas toute seule. Peut-être avec un enfant, on y arrivera mieux. Il y a des femmes comme ça qui pensent qu'un enfant, ça peut aider. Et tous les deux ont eu un enfant et l'homme s'en est trouvé transformé. Tenir dans ses mains ce tout petit bout de vie, le voir sourire... Sourire à cette vie-là, toute fragile entre ses mains. Ben, ça lui ouvrait le cœur à nouveau, mais ça n'a pas duré. Ce monde est nul. Je déteste cette vie, les gens sont méchants. Et pourquoi ce gosse ne fait pas ses nuits ? Ce monde est nul, je déteste cette vie, les gens sont méchants. La femme s'est dit, bon, allez, un deuxième enfant, peut-être ce sera mieux. Et ils ont eu un deuxième enfant, ça l'a adouci un temps, mais ça n'a pas duré. Ce monde est nul, je déteste cette vie, les gens vraiment sont méchants. Un matin, l'homme s'est réveillé, il s'est levé. Comme chaque matin, il est descendu à la cuisine. C'était silencieux dans la maison. Il y avait un petit papier posé sur la table. Un petit papier écrit de la main de sa femme. « Je suis désolée, j'ai tout essayé. Je crois que j'y arriverai pas. C'est beaucoup trop fort pour moi, alors je pars. Avec les enfants. » L'homme a reposé le papier. Il a pris une grande respiration et dans le silence de la pièce, il a crié « C'est bon, ok, c'est ça, allez-y, partez, partez tous. Ce monde est nul, je déteste cette vie, les gens sont méchants, tiens, que tout disparaisse. » sa voix a ricoché au mur de la pièce. Et c'est là qu'il s'est aperçu que les murs étaient en train de devenir transparents. La maison, la table de la cuisine, le sol, tout était en train de s'effacer. Le ciel autour de lui, les nuages, le soleil, les arbres, tout disparaissait. Et l'homme s'est retrouvé sans vêtements, nu dans le vide absolu. Enfin, enfin seul. Et il s'est mis à rouler, bouler, tourner, nager, explorer ce vide absolu, sidéral. Enfin seul. Seul, seul, seul. Hé, hey, c'est bon, ça va, j'ai compris. Allez, c'est bon, là. Revenez, ça va, j'ai compris maintenant. Mais à l'intérieur de l'homme, timidement, une petite vibration est montée de son ventre, une petite vibration qui est devenue souffle puis voix. Tu l'aimes, ce monde? Tu ne veux pas le perdre, alors comporte-toi en homme et nomme. Alors l'homme a réfléchi, il a laissé monter en lui toutes les beautés de ce monde qui lui sont précieuses et qu'il n'a jamais pris le temps de vraiment regarder. Et de son ventre s'est monté jusqu'à sa bouche, il a commencé à nommer le souffle du vent. La caresse du soleil sur ma peau quand je me réveille un matin d'été, le parfum de l'herbe coupée qui vient du dehors. Et à mesure que les mots sortaient de sa bouche, ils se dessinaient dans l'air en arabesques bleutées et tracées comme ça, comme sur un écran. Toutes ces beautés perdues, toutes ces beautés importantes de ce monde égaré. Et l'homme a continué de nommer, nommer, nommer le rire d'un enfant. Le bruit d'un battement d'ailes, le chant des oiseaux quand le jour se lève, et puis le bruit de la tondeuse du voisin même, et la voix de ma femme, et puis l'air qui danse de tout ce qui fait la vie. Il a continué à nommer, 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 et tout ce qui sortait de sa bouche se densifiait, s'épaississait, se matérialisait, la fête. Les rires, les bises qu'on claque, la proximité d'un voisin, les rassemblements, les fêtes, les concerts, bon sang, les sorties, les spectacles, le cinéma, la vie, quoi, aller claquer deux chopes de bière et trinquer ensemble à cette vie. Le rire de mes enfants, ma femme. Et l'homme s'est retrouvé à ce monde, contre la peau de sa femme. Son cœur pulsant la vie à l'unisson des cœurs de ses enfants. Si tu veux être à ce monde, si tu veux y être un homme, alors nomme.
J'ai tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit.
Je tiens ce compte du bout de la langue des conteurs Abby Patrix, Pepito Matteo et Muriel Bloch. Tous les trois le tenaient de l'Indien Huma Greyhawk, rencontré en Louisiane. Pour les Indiens Huma, les Cajuns, les Créoles descendants d'esclaves noirs, le français était la langue de la résistance. J'ai laissé ce conte fondre en ma bouche un moment, et mon souffle en a fait sa petite chanson. Je le remets sous la pierre pour le suivant.
La France est l'un des rares pays au monde qui possède une langue qui ne se parle pas, qui ne s'écrit pas, mais qui se siffle.
Oh Jeannot, viens chercher une cigarette.
Le langage sifflé est propre à un petit village niché au cœur de la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, le village d'Ass. Pendant des générations, les bergers et les bergères pouvaient communiquer d'une montagne à l'autre en sifflant. Quand il y a du silence, le sifflement peut s'étendre jusqu'à une dizaine de kilomètres, très pratique quand on veut alerter un voisin, annoncer la mort d'une personne ou demander un service. Car ce langage permet de presque tout dire. Comment ? Eh bien, il se construit autour de quatre voyelles, I, E, A, O, qui ont quatre tonalités différentes, le I étant le plus aigu. Et puis, il y a quatre consonnes de base qui représentent plutôt des sons que, ye, ch et ge, que l'on distingue en attaquant le sifflement différemment. Le ye, par exemple, est indiqué par une sorte de petite variation sifflée. Dans le village d'As, le langage sifflé est une modulation du dialecte local, le béarnais. Donc pour apprendre cette langue, il faut d'abord connaître l'occitan et puis savoir siffler. Mais ça, chacun y va de sa petite méthode. Avec ou sans les doigts, toutes les techniques sont bonnes à prendre. La France n'est pas le seul pays qui possède un langage sifflé. Il en existerait environ 70 dans le monde, présents notamment au Mexique, sur l'île de Gomera dans les Canaries, en Grèce, au Maroc, en Turquie. Et même s'ils diffèrent d'une région à l'autre, toutes ces langues ont la même utilité, communiquer à distance. Et puis parfois, selon le contexte, comme par exemple en temps de conflit, en temps de guerre, cela sert à s'entraider, puisque c'est une langue difficilement compréhensible sans traduction.
Oh, Annette, oh. Fais attention, le garde arrive.
Si les derniers siffleurs de la vallée d'Ossau sont en train de disparaître, la pratique, elle, est maintenue grâce à une association locale, Liu Siular Das, les siffleurs Das. Le langage sifflé peut désormais s'apprendre au collège, dans le cadre des sections bilingues français-occitan, et puis à l'université de Pau depuis 2016. Alors, avis aux amateurs.
Au revoir, on rentre.
Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Pour se dire adieu. À le voir crapahuté, le pied agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. Escalade les jardins en escalier, sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero, Bonifacio.
Il n'y a plus personne dans la forêt. Sauf des scarabées et autres petites bestioles, bien entendu. Eux, c'est comme si rien ne leur faisait de l'effet. Ils persistent à bourdonner ou à striduler comme avant. Ils volent. Ils mordent, ils sucent le sang et ils me grimpent toujours aussi absurdement sur la jambe quand je me trouve sur leur chemin. Ils courent dans tous les sens jusqu'à ce que je les fasse tomber par terre ou que je les écrase. Leur monde est toujours le même. Mais même cela, il n'y en a plus pour longtemps. Leur heure viendra. Bien sûr, je ne serai plus là pour le voir. Nul ne sera plus là, mais leur heure viendra, j'en suis sûr et certain. À vrai dire, je ne sors plus très souvent. Je fais surface une fois par semaine, peut-être, pour aller prendre de l'eau à la source. Je me lave. Il est bien rare qu'en chemin je rencontre quelqu'un avec qui échanger quelques mots. La plupart du temps, il n'y a pas âme qui vive. Une ou deux fois, je suis tombée sur un chevreuil ou un sanglier, mais ils se sont fait froussard, ils me craignent rien qu'à l'odeur. Quand je siffle, ils se fichent sur place. Ils me fixent d'un air borné, les yeux ronds, sans s'approcher. En voilà un prodige, un homme qui sait la langue des serpents. Ça les effraie encore plus, ils sauteraient volontiers la tête la première dans les fourrés et ils prendraient leurs pattes à leur cou pour mettre toute la distance possible entre eux et cette monstruosité, mais pas moyen. Les mots des serpents les en empêchent. Je siffle encore plus fort, sévèrement. Je leur ordonne de venir auprès de moi. Ils brament désespérément, ils se traînent vers moi à contre-cœur. Je pourrais prendre pitié d'eux et les laisser s'en aller, mais à quoi bon ? Il y a en moi une étrange colère envers ces créatures qui ont tout oublié des anciennes coutumes. Une fois pourtant, les choses ont pris un autre tour. Je venais de quitter la source lorsque soudain je vis sur mon chemin un bel élan. Aussitôt je sifflai les mots les plus simples de mon répertoire, mais au lieu de s'effrayer, il courba la tête, s'approcha sans délai, s'agenouilla et me tendit humblement le cou, tout comme dans l'ancien temps, lorsque nous nous procurions notre nourriture en appelant ses semblables au sacrifice. Combien de fois dans mon enfance ai-je vu maman pourvoir ainsi la famille de provisions pour l'hiver ? Dans un troupeau, elle choisissait la femelle qui convenait le mieux, l'appelait auprès d'elle et la bête, rendue docile par les mots des serpents, se laissait égorger sans peine. Nous avions toujours assez de viande pour passer la mauvaise saison. Qu'elles nous paraissent ridicules, en comparaison, les chasses stupides auxquelles se livrent les villageois, de longues heures à traquer un seul élan, quantité de flèches perdues dans les buissons et tout ça pour rentrer bredouille plus souvent qu'à leur tour, alors qu'il suffisait de deux ou trois mots pour soumettre l'animal à leur volonté. Comme cette grande bête vigoureuse qui, à genoux devant moi, attendait le coup fatal. J'aurais pu l'égorger d'un seul geste, mais je n'en ai rien fait. Au contraire. J'ai posé mon outre à terre et je lui ai donné à boire. Il lapa paisiblement. C'était un mâle, forcément très âgé, et il vint comme un roi. Peu importe que ce soit au sacrifice, ça aussi il doit le savoir. Qu'y a-t-il donc d'humiliant à se soumettre aux anciens principes et aux anciennes coutumes ? Jamais nous n'avons tué un seul de ses congénères par plaisir. Quelle joie peut-on éprouver à ce genre d'acte ? Il nous fallait manger. Nous avions un mot pour nous procurer de la nourriture. Les élans aussi le connaissaient et lui obéissaient. Ce qui est humiliant, c'est d'avoir tout oublié. comme ces villageois qui se mettent à 10 pour attraper un seul animal. C'est la sottise qui est humiliante, pas la sagesse. Je lui ai donné à boire à cet élan. Je lui ai caressé la tête. Il a frotté son museau à mon pourpoint. Le vieux monde n'est donc pas tout à fait mort. Tant que je serai là, tant que cette vieille bête existera, il y aura quelqu'un dans la forêt pour se rappeler. Quelqu'un qui saura la langue des serpents. Pour cette émission, je suis allée picorer dans le très bel article « Éloge de la parole » écrit par le conteur Bruno de la Salle et publié dans la revue « La Grande Oreille » en juillet dernier. Cette revue avait dédié son numéro à la parole et je les remercie pour ce trésor de ressources. J'en profite aussi pour vous conseiller vivement la lecture du très beau roman de l'Estonien Andrus Kirvirek, « L'homme qui savait la langue des serpents » et dont je viens de vous lire un extrait. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio Ola. D'ici là, portez-vous bien.